C'est le journal de Sébastien Legénie. Bonjour Sébastien.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, comment écrire ses dernières volontés? Qui prévenir quand on refuse l'acharnement médical? Jusqu'ici, une petite majorité de Français a rédigé ce qu'on appelle les directives anticipées, mais l'affaire Vincent Lambert relance le débat au sein des familles. Reportage à suivre. Le compte à rebours continue J-4 avant les élections européennes. Grand débat ce soir sur France 2 et France Inter. Certains citoyens ont déjà commencé toutefois à voter hier. 5000 détenus en ont le droit. Nous serons la prison de Besançon. Dans l'actualité également, le Sénat qui vote la taxe GAFA, Washington qui accuse Damas d'attaque chimique. Et puis on parlera dans ce journal d'un CRS menacé d'aller en cour d'assises pour un jet de grenade pendant une manifestation. C'était en 2016 et les premières impressions d'Eva Bétan après la projection hier du très attendu Tarantino.
Cinéma encore avec les invités d'Alexandra Ben Saïd à 7h50. Aujourd'hui, la réalisatrice, Justine Triet et l'actrice Adèle Exarchopoulos pour le film Sibyl. Il est en compétition pour la Palme d'Or et il sera en salle ce vendredi.
France Inter.
Comment, Sébastien, comment mieux prendre en compte la volonté des patients en fin de vie?
La question ressurgit en effet à l'occasion de l'affaire Vincent Lambert. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé elle-même, est montée au créneau hier. Nous devons tous, dit-elle, remplir nos directives anticipées. Les directives anticipées, ces instructions écrites qui permettent d'informer la famille et le corps médical dans lequel on ne puisse plus s'exprimer. Une démarche encore très peu répandue en France. Seuls 13% des Français de plus de 50 ans y ont recours. Mais depuis hier, les associations reçoivent de plus en plus d'appels et beaucoup de Français veulent désormais passer à l'acte, à l'image de ce couple Jérôme et Carole qu'a rencontré Mathilde Dehémy.
Jérôme Normand, de 42 ans, en avait déjà parlé à sa femme, mais le dernier rebondissement autour du cas de Vincent Lambert l'a incité à écrire très clairement ses volontés. À peine arrivé au travail hier matin, il a imprimé un formulaire.
Je ne souhaite pas me retrouver dans des situations d'acharnement thérapeutique. Je préfère largement qu'on m'accompagne vers la mort dans le cadre d'une sédation plutôt que de vivre des années dans un coma irréversible. Je ne veux pas vivre ça et je ne veux pas faire vivre ça à mon entourage.
Même urgence hier pour Carole, toulousaine de 57 ans. Se dire que cela va peut-être encore durer des mois, des années pour Vincent Lambert m'a bouleversée, dit-elle. Elle s'est vite connectée à un site proposant des modèles de lettres répondant sans trop de difficultés aux questions posées.
C'était assez clair dans ma tête, en fait. Là où je me suis posé des questions, c'est plutôt sur la partie réanimation. Et j'ai dit, je voudrais qu'on essaye quand même de me réanimer parce que j'aime la vie. Mais si on est obligé de me maintenir en vie de manière artificielle, je préférerais qu'on arrête tout de la manière la plus apaisée possible.
Carole a rempli ses directives par Internet, les a envoyées à sa famille et déposées sur son dossier médical partagé en ligne. L'essentiel est que médecins et proches soient au courant de ses choix. Un document qui peut être à tout moment modifié ou annulé par son rédacteur.
Qui prévenir? À quelles questions faut-il répondre dans ces directives anticipées? Article très complet d'Olivier Bénis à retrouver sur franceinter.fr. Et puis ajoutons que les proches de la femme de Vincent Lambert, partisan d'un arrêt des traitements, tente de s'organiser pour faire face aux futurs frais de justice. Un ami de l'école d'infirmiers de Vincent Lambert a lancé hier un appel national aux dons pour aider son épouse Rachel.
Un débat télévisé en prime time, Sébastien, pour tenter de mobiliser.
France 2, France Inter organisent ce soir l'un des derniers grands événements médiatiques à 4 jours des élections européennes. Début à 20h avec un débat en deux temps. D'abord en première partie, François Bayrou, Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, Manon Aubry, Raphaël Glucksmann et Yannick Jadot. Puis deuxième plateau, casting la plus incertain, 9 participants en seconde partie de soirée avec les plus petites listes. Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Christophe Lagarde ont fini par accepter de venir. Benoît Hamon, lui, enverra un représentant de son mouvement Génération. Les Français se rendront aux urnes dimanche, le 26 mai prochain, mais certains d'entre eux ont déjà fait leur devoir de citoyen. Les détenus sont en effet les premiers à voter. Plus de 5000 d'entre eux remplissent les conditions, disposer de ses droits civique, avoir des papiers, être inscrit sur les listes électorales. Reportage à la maison d'arrêt de Besançon de Béatrice Duguay.
Quelques verrous à ouvrir et le bureau de vote est là.
On est dans la bibliothèque de la maison d'arrêt de Besançon.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Votre carte s'il vous plaît.
Merci.
On n'en parle plus de la procédure.
Nom, prénom, lieu de détention, numéro d'écrou. Je vous donne les deux enveloppes et vous passez derrière pour récupérer les bulletins.
Enveloppe bleue, d'autres blanches et bien sûr 34 bulletins à disposition.
L'embarras du choix.
Oui, un peu trop.
Au fond de cette salle remplie de livres, deux isoloirs, Junior, détenu condamné, en sort ému.
Pas une fierté, mais on va dire le mot dignité, voilà, parce que voilà, on est dans des conditions, c'est pas trop facile, donc voilà. Malgré notre incarcération, on se sent quand même citoyen, on a notre mot à dire surtout. Ouais, on n'est pas moins que rien. Ouais.
À la maison d'arrêt de Besançon, 73 détenus ont exercé leurs droits, c'est à peu près 30% de ceux qu'ils pouvaient. Un geste civique doublé d'un droit basique, se félicite Jean-Michel Laurent, le directeur de la maison d'arrêt.
Le droit de vote, il est similaire que l'on soit incarcéré ou qu'on soit libre. Et c'est un geste doublement fort parce qu'il vient dépasser quelque part l'idée que les murs de la prison seraient hermétiques et couperaient totalement des gens qui séjournent d'un avenir et d'un avenir de collectivité.
Votre vote, merci. Et je vous donne...
Pas d'urne dans la salle, mais une grande enveloppe blanche qui contient les bulletins envoyés à Paris et dépouillés avec tous les autres dimanche.
Vous avez voté. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà le reportage de Béatrice Duguay à la prison de Besançon. Elle s'était fait agresser en plein Paris à la sortie du métro. C'était il y a 2 mois pendant une manifestation anti-Bouteflika, agressée parce qu'elle est transgenre. Les images de cette humiliation avaient fait le tour des réseaux sociaux. Julia sera confrontée à son agresseur. Aujourd'hui, il risque 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Dans l'actualité judiciaire encore, cette décision très rare qui devrait relancer le débat sur les accusations de violence policière face aux gilets jaunes, des juges d'instruction parisiens souhaitent renvoyer un CRS devant les assises. Il est accusé d'avoir jeté une grenade de désencerclement le 15 septembre 2016 lors d'un cortège contre la loi travail. Un tir injustifié, sans cadre légal selon les magistrats. Un tir qui a fait perdre définitivement son œil à un manifestant. Ce manifestant s'appelle Laurent Théron. Une vraie reconnaissance pour ce syndicaliste Sud-Santé.
Ça représente dans un premier temps la reconnaissance de ma mutilation. C'est ça qui est le plus important pour moi dans un premier temps, c'est de ne pas nier la perte de mon œil. C'est-à-dire que voilà, mon œil droit, il a éclaté par la faute de cette grenade jetée en dehors de tout cadre légal. Et donc, après, découle le tribunal concerné par un acte qui est qualifié de criminel. C'est une mutilation, c'est définitif, c'est irréversible. Et donc, c'est des assises. Mon souhait, c'est la révocation de ce policier. Je crois que c'est très important qu'aujourd'hui, mon cas montre quelque part la voie de la justice, puisque ces gilets jaunes victimes, je pense que c'est très important que la justice pénalise ces actes de violence policière. Ces armes sont un vrai danger et qu'il faut les interdire.
Laurent Théron du syndicat Sud-Santé, l'avocat du policier lui a annoncé hier son intention de faire appel de la décision des juges. Le syndicat Unité SGP Police a saisi de son côté la garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Plus de 2 mois après le crash d'Ethiopian Airlines, une famille française porte plainte contre Boeing. La veuve d'une victime de ce crash du Boeing 737 MAX réclame 276 millions de dollars de dommages et intérêts.
Il est 7h38, nouvelle alerte des autorités sanitaires. Sébastien, attention à la silice cristalline.
Ce minéral, comme le quartz que l'on retrouve dans beaucoup de matériaux de construction, fait en effet courir des risques aigus de cancer ou de problèmes pulmonaires. 365 000 personnes sont potentiellement exposées dans le BTP, mais aussi dans les carrières, la filière funéraire, la sculpture, la voirie, la peinture ou même la verrerie. Les précisions de Véronique Julien.
L'ANSES a voulu remettre à jour ses connaissances sur le sujet après avoir été alertée par plusieurs enquêtes. Elle rapportait dans plusieurs pays des cas graves de silicose, une maladie pulmonaire, chez des travailleurs ayant l'habitude de découper des plans de travail contenant du quartz pour des cuisines et des salles de bain. Des cas qui interrogent sur l'utilisation de nouveaux matériaux contenant des taux importants de silice. D'après l'ANSES, 23 à 30 000 travailleurs en France seraient exposés à des taux excédant la valeur limite d'exposition professionnelle. Des niveaux qui leur font prendre un risque élevé. Depuis 22 ans, la silice cristalline est classée cancérogène pour l'homme. Outre la silicose et le cancer bronchopulmonaire, elle serait liée aussi à un risque accru de développer une maladie auto-immune comme la polyarthrite rhumatoïde, ainsi que des affections respiratoires comme la BPCO. L'ANSES recommande évidemment de renforcer la prévention et la surveillance médicale des travailleurs exposés, mais aussi de réviser la valeur limite acceptable en France, qui ne serait pas aujourd'hui suffisamment protectrice. L'institution s'adresse aussi au passage aux particuliers exposés eux aussi quand ils font de la la découpe de carrelage ou de béton, ou même quand ils s'occupent de leurs chats, dont les litières sont riches en silice également.
Véronique Julia, les chaînes de magasins, casinos et intermarchés dans le viseur de Bruxelles. Des enquêteurs de la Commission européenne ont effectué hier plusieurs descentes dans différents sites à Paris, Bondoufle et Saint-Étienne. Au cœur de l'enquête, l'ancienne centrale d'achat commune aux deux groupes de distribution français, soupçonnés de pratiques commerciales douteuses. Les mondiaux d'athlétisme au Qatar de l'automne prochain, entachés par des soupçons de corruption. Hier, la justice a en effet confirmé la mise en examen du président de beIN Sport France, Youssef Al-Obedli, pour corruption active. Il serait impliqué dans un versement suspect sur le compte du fils de l'ancien président de la Fédération d'athlétisme, Lamine Diack, lui-même mis en examen dans cette enquête. Des paillettes pour terminer avec le dernier Tarantino présenté hier à Cannes. C'était le film le plus attendu du festival. Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film avec de Quentin Tarantino, avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Eva Bettan l'a vu, mais comme tous ceux qui l'ont vu, elle n'a pas eu le droit de spoiler le film, de le divulgâcher.
Pour tous les films, dévoiler la fin est une mauvaise action. Pour celui-ci, c'est vital. En effet, il y a une fin qui saisit. Annonçons la couleur tout de suite, et pas seulement parce que Tarantino l'a demandé, on ne gâchera pas le plaisir du spectateur. Tarantino aime toutes les cultures sans hiérarchie, le cinéma et le cinoche, toutes les images, même celles des séries télévisées de la fin des années 60. Ainsi, la série Chasseur de primes qu'il imagine, le titre dit tout, dont DiCaprio est la vedette au rabais, Brad Pitt étant son cascadeur et son factotum. Les acteurs s'en donnent à cœur joie et on a entendu le public élégant de Cannes par moments applaudir à des scènes parce qu'elles étaient jouissives. Pour autant, n'attendez pas le grand film sur les années hippies. Ce film envers un but et pas des moindres. Tarantino habile sème des indices et puis il nous les fait oublier pour que nous soyons saisis. Il reprend en quelque sorte le schéma de Titanic. On sait que le bateau va sombrer, mais on l'oublie un moment. Tarantino définitivement croit que le cinéma peut corriger la vie. Cela pourrait être d'une arrogance ou d'une naïveté folle, mais sa croyance dans le cinéma nous désarme et nous réconforte.
Eva Bettan, Once Upon a Time in Hollywood, le dernier Tarantino, ça doit sortir en principe le mois de juillet prochain sur les écrans français.
Merci Sébastien Legénie.